Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Metzia, page 56, Daf Nun Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Mipnei she'amru, parce que les chachamim ont dit, mechalilin oto kesef al nechoshet midochak, il est permis de transférer la kdusha se trouvant sur des pièces d'argent qui ont servi au rachat du maaser sheni sur des pièces de cuivre, si cette personne n'en a pas le choix. Lo she'ikaim ken, et non pas qu'il le laisse ainsi, et là she'chozer u mechalilan al kesef, mais il transférera à nouveau la kdusha de ces pièces de cuivre sur une pièce en argent. Ketane mihad. Il est enseigné donc au moins dans cette braïta que Mechalelin Midochak, il est permis de transférer la kdusha du maaser sheni se trouvant sur des pièces en argent, sur des pièces en cuivre, si cette personne n'en a pas le choix. Finalement donc, nous pouvons déduire de cette Mishnah que Midochakin, il sera permis de transférer la kdusha de maaser sheni se trouvant sur des pièces en argent, sur des pièces en cuivre. Si cette personne a un besoin pressant, chez l'Omidochaklo, mais si cette personne n'a pas de besoin pressant, elle n'aura pas le droit de le faire. Et cela parce que transférer la kdusha de maaser sheni sur une valeur moins sûre est considéré comme une négligence du maaser sheni qui est interdit. Et il est aussi évident dans cette Mishnah qu'il sera interdit de transférer la kdusha de maaser sheni se trouvant sur une pièce d'argent, sur une autre pièce d'argent. Parce que sinon, dans cette Mishnah, il n'était pas nécessaire d'emmener des autres pièces de cuivre pour transférer la kdusha du maaser sheni sur elle. Mais cette personne aurait pu simplement choisir l'une des pièces et de dire, si c'est celle de maaser sheni, il n'y a aucun problème. Si c'est l'autre qui était la pièce de maaser sheni, je transfère la kdusha du maaser sheni sur la seconde pièce. En fait, il est interdit de le faire parce que transférer la kdusha du maaser sheni se trouvant sur une pièce d'argent, sur une autre pièce d'argent, n'est pas considéré comme un transfert. Et cela parce que cette personne n'a rien gagné par ce transfert. En tout cas, nous voyons que Rabbi Meir était moins strict pour le maaser sheni prélevé sur du dmaï, sur des fruits donc achetés chez l'ignorant, dont le prélèvement n'est obligatoire que midrabanan, que sur le maaser sheni, dont le prélèvement est obligatoire minatora. Nous voyons donc que même selon Rabbi Meir, les chachamim n'ont pas renforcé leur décret pour qu'il soit équivalent aux lois de la Torah. L'agma répond à Marav Yosef, « Afalpi shemekal Rabbi Meir bepidiono » Bien que Rabbi Meir soit moins strict concernant le rachat du maaser sheni prélevé sur des fruits achetés chez l'ignorant, comme nous l'avons vu, « Machmirhu be'achilato » Il sera quand même strict concernant l'interdiction de consommer ce maaser sheni. Par conséquent, dans notre Mishnah, où il s'agit d'une personne qui a consommé par inadvertance du maaser sheni prélevé sur des fruits achetés chez un ignorant, Rabbi Meir aura renforcé le décret des Chachamim pour qu'il soit équivalent aux lois de la Torah, et cette personne devra donc payer le supplément d'un cinquième. Détania, comme nous voyons dans une braïta, lo hitiru limkor demai, les Chachamim n'ont permis à la personne scrupuleuse dans l'observance des lois du Maaser de vendre des fruits achetés chez un ignorant, et là les siton bilvad, uniquement aux grossistes. Et cela parce que tout le monde sait qu'il s'approvisionne chez plusieurs fournisseurs qui peuvent être aussi ignorants. Mais s'il vend au détail, il devra impérativement prélever le maaser avant de revendre ses fruits. Ou bala bait, et lorsqu'il s'agit d'un particulier qui est scrupuleux dans l'observance des lois du maaser, benkar ou benkar, soit s'il revend ses fruits au détail, soit s'il le revend en gros, tsarich laaser, il devra au préalable prélever le maaser avant de le revendre. Et cela parce que les gens risquent de croire qu'il vend sa propre production, et ainsi donc de consommer ses fruits sans prélever le maaser. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Vachachamim omrim, echad asiton vechad balabait, soit le grossiste, soit le particulier, mocher, il aura le droit de revendre des fruits achetés chez un ignorant, vecholer lachabero, il pourra aussi envoyer des fruits à son prochain, venoten lo bematana, il pourra lui en faire cadeau, veino choshesh, il n'aura pas à craindre qu'il ne prélève pas le maaser. En tout cas, nous voyons que Rabbi Meir est beaucoup plus strict lorsqu'il y a lieu de craindre que des fruits provenant d'un ignorant soit consommé sans prélèvement de maaser. Il a donc renforcé le décret des Chachamim pour qu'il soit équivalent aux lois de la Torah. Nous avons fini ici le shiur de Baba Metzia Daf Nun He. Nous commençons le shiur de Baba Metzia Daf Nun Vav à la 10e ligne du haut de la page. Nous avons vu précédemment dans notre Mishnah que la personne qui consomme du Trumat Maaser par inadvertance, devra payer le supplément d'un cinquième. Et cela, même s'il s'agit d'une Trumat Maaser qui a été prélevée sur des fruits achetés chez un ignorant, qui n'est pas scrupuleux dans l'observance des lois du Maaser. Par conséquent, nous avons un doute s'il a prélevé le Maaser ou non. Les Chachamim ont rendu le prélèvement de cette Trumat Maaser obligatoire. Rabbi Lazar s'était demandé comment se fait-il que les Chachamim soient aussi stricts concernant leur décret, de manière à exiger le paiement d'un supplément d'un cinquième, même pour celui qui consomme cette Trumat Maaser dont le prélèvement n'était obligatoire comme des Rabbanan. Shmuel a répondu que notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Meir, selon lequel les Chachamim ont renforcé leur décret pour qu'il soit équivalent aux lois de la Torah, comme nous le voyons concernant les lois du divorce. Rav Sheshet a démontré d'une Mishnah, dans Maseret Dmaï, que Rabbi Meir n'était pas aussi strict concernant les décrets des Chachamim, parce que nous voyons que les Chachamim ont permis le transfert de la Kdusha se trouvant sur des pièces d'argent de Maaser Sheni, sur d'autres pièces en argent. S'il s'agit d'un Maaser Sheni qui a été prélevé sur les fruits achetés chez un ignorant, alors que c'est interdit s'il s'agit d'un Maaser Sheni dont le prélèvement est obligatoire minatora. Alors Rabbi Yosef a répondu là-dessus qu'il est vrai que Rabbi Meir est moins strict lorsqu'il s'agit du rachat du Maaser Sheni dont le prélèvement n'est obligatoire que minatora. Par contre, il est beaucoup plus strict lorsqu'il s'agit de l'interdiction de consommer ce Maaser Sheni, ou en général, les fruits provenant d'un ignorant. Par conséquent, celui qui consomme par inadvertance la Trumat Maaser prélevée sur des fruits achetés chez un ignorant, cette personne devra payer le supplément d'un cinquième. Alors, Metiv Ravina a objecté là-dessus à partir d'une Mishnah dans Dmaï Pereke, où nous verrons que Rabbi Meir n'était pas aussi strict même concernant l'interdiction de consommation qui est Minerabanan. En effet, la Mishnah dit Halokeach Minalachtom, celui qui achète du pain chez un boulanger ignorant, Maaser Minachama Alatonenet, il pourra prélever le Maaser du pain chaud sur le pain froid, ou Minatonenet Alachama, ou bien du pain froid sur le pain chaud, Vafilou Midfusi Marbe, même si ces pains sont de formes différentes. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Alors la question se pose, Bishlama Minatsonenet Alachama, on comprend encore que Rabbi Meir permette de prélever le Maaser du pain froid sur le pain chaud, qu'est de Rabbi Elai, à cause de l'enseignement de Rabbi Elai. D'Ama Rabbi Elai, Minain le Torem Minara Alayafa, d'où sait-on que la personne qui prélève la Trouma du mauvais sur le bon, chez Trumato Trouma, que son prélèvement est valable? Chez Neymar, Rabbi Elai répond parce que le Pasuk dit dans Bamidbar Yutret, concernant le prélèvement de la Trouma, Velot Issu Alavret, Be'arimchem et Chelbo Mimenu. Vous ne porterez pas de faute si vous préleverez le meilleur de lui. Ce passouk nous enseigne que pour prélever la Trouma, la personne devra prélever le meilleur. Cependant, ce passouk sous-entend que si cette personne ne prélève pas le meilleur, il portera une faute. Alors la question se pose, im eno kadosh, si lorsque la personne prélève du mauvais sur le bon, le prélèvement n'est pas valable, nessia traite lama, pourquoi est-ce que le passouk sous-entend que cette personne portera une faute, puisque le prélèvement n'est même pas valable? Rabbi Elai conclut, Mikan le Torah Minara Alayafa, de là nous pouvons déduire que celui qui prélève du mauvais sur le bon, chez Trumato Truma, que son prélèvement est valable. Nous pouvons donc comprendre que pour ce qui est acheté chez l'ignorant, Rabbi Meir n'est pas aussi strict et permet de prélever du mauvais sur le bon, donc du froid sur le chaud. Et là, un filomit fusi marbe, mais lorsque Rabbi Meir permet de prélever d'un pain sur l'autre, même s'ils sont de formes différentes, il y a donc lieu de craindre que ces pains ne proviennent pas de la même origine, et ce boulanger a pu les acheter chez des fournisseurs différents. Par conséquent, l'ichouche, il y a lieu de craindre, Dilma atela frouche minachi ou valaptour, que cette personne prélève du maaser, du pain dont l'obligation de prélever le maaser est minatora, parce que celui-ci provient d'une personne qui n'a pas prélevé de maaser, sur du pain qui est exempté du prélèvement du maaser, parce que son fabricant a déjà prélevé le maaser. Finalement donc, ce prélèvement n'est pas valable. Il se trouve que cette personne donne au Kohen des fruits ou du pain dont le maaser n'a pas été prélevé. Ou bien, minaptur alachiyuv, il y a lieu de craindre que cette personne prélève le maaser du pain exempté du prélèvement de maaser parce que son fabricant a déjà prélevé le maaser, sur du pain dont le prélèvement du maaser est obligatoire parce que son fabricant n'a pas encore prélevé le maaser. Ce prélèvement aussi n'est pas valable. Il se trouve que cette personne consommera du pain dont le maaser n'a pas été prélevé. Forcément, nous voyons de là que puisqu'il s'agit uniquement d'un doute si le maaser a été prélevé ou non, les chachamim n'ont pas été aussi stricts et n'ont pas exigé le prélèvement séparé de chaque pain dont la forme est différente. Et cela à cause de la possibilité que ce boulanger se soit approvisionné chez le même fournisseur. Finalement donc, nous voyons d'ici que même concernant l'interdiction de consommer les produits provenant de chez l'ignorant, les chachamim n'ont pas été très stricts. Alors, l'Agma répond commençant par une introduction. Amar Abaye, Rabbi Lazar Shapir Kakashale. Rabbi Lazar s'était posé une bonne question, qui est, pourquoi est-ce que les chachamim ont exigé le supplément d'un cinquième lorsque une personne a consommé par inadvertance de la Troumat Maaser prélevée sur des fruits achetés chez l'ignorant? Parce qu'il est difficile de concevoir que les chachamim aient été aussi stricts concernant leur décret. Ou Shmuel, lo Shapir Kameshanele. Tandis que Shmuel, lui, n'a pas donné une bonne réponse. Et cela parce que de Kachalel Rabbi Eliezer mita debide shamaim, parce que Rabbi Eliezer s'était posé une question concernant la Troumat Maaser, dont la consommation n'est pas une interdiction tellement grave, parce que celle-ci n'est sanctionnée que par la mort, par le châtiment divin. Ou Meshanele Shmuel mitad bedin, tandis que Shmuel, qui répond à cette question en disant que les Chachamim ont renforcé leur décret pour qu'il soit équivalent aux lois de la Torah, prouve cette réponse des lois concernant le divorce, dont l'enjeu est beaucoup plus grave. En effet, si cette femme n'est pas divorcée, la personne qui se marie avec elle, ou qui a une relation avec elle, est sanctionnée par la peine capitale. En fait, donc, cette preuve n'en est pas une, parce que Dilma Shani Mitad Bedin de Khamira, peut-être que concernant une interdiction qui est sanctionnée par la peine capitale, qui est donc beaucoup plus grave, les Chachamim ont renforcé leur décret. Alors que concernant une interdiction moins grave, peut-être que les Chachamim n'ont pas renforcé leur décret. Plutôt, comme le précise le Rabbi Akiva Eiger, nous devons dire que la raison pour laquelle les Chachamim ont exigé le supplément d'un cinquième pour la personne qui a consommé cette Troumat Maaser prélevée sur les fruits achetés chez l'ignorant, ce n'est pas parce qu'ils ont renforcé leur décret pour qu'il soit équivalent aux lois de la Torah, mais plutôt pour que les gens ne viennent pas négliger cette obligation de prélever le Maaser sur les produits achetés chez l'ignorant, ou que les gens viennent à négliger cette interdiction de consommer la Troumat Maaser prélevée sur les fruits achetés chez l'ignorant. Mais Abaye continue, même si nous acceptons cette interprétation et cette réponse de Shmuel, Rav Shechet lo shapir kamotivle. Mais Rav Shechet, quant à lui, n'a pas posé une bonne question. De kamre inhu mita, parce que Rabbi Lazar et Shmuel parlent d'une interdiction sanctionnée par la peine de mort. Ou motiv Rav Shechet lav, alors que Rav Shechet pose une question à partir d'une Mishnah concernant un commandement négatif qui n'est pas sanctionné par la peine de mort. En effet, cette Mishnah parle de l'interdiction de consommer du maaser sheni qui n'a pas été racheté ou qui n'a pas été racheté convenablement. Et il s'agit uniquement d'un commandement négatif qui n'est pas sanctionné par la peine de mort. Dirtiv, comme le pasuk dit dans Dvarim Yudbet, concernant le maaser qui n'a pas été racheté, lo tuchal lechol bisharecha, tu ne pourras pas consommer dans tes villes ce maaser sheni qui n'a pas été racheté. Autrement dit, il est évident que les lois concernant le rachat du maaser sheni sont beaucoup moins graves. Il n'y a pas de raison que les Chachamim renforcent leur décret concernant le Maaser Sheni ou le rachat de celui-ci qui a été prélevé sur les fruits achetés chez l'ignorant. Ou le Maïde motive Rav Shechet, et après que Rav Shechet a posé sa question, Rabbi Yosef Shapir Kameshanele. Rabbi Yosef lui a bien répondu en faisant la différence entre le rachat du Maaser Sheni, où nous voyons que Rabbi Meir était moins strict, et l'interdiction de consommer celui-ci, où les produits achetés chez l'ignorant, pour lesquels Rabbi Meir était plus strict. Et la Ravina, mais sur Ravina, j'ai la question suivante. Ad de motive minartom, avant de poser la question à partir du boulanger détaillant, l'essaya le mipalta, n'avait qu'à au contraire amener une preuve à la réponse de Rabbi Yosef, à partir du cas du boulanger grossiste, qui achète son pain chez plusieurs fournisseurs, et le revend aux détaillants, ou aux épiciers. De plan, parce qu'il est enseigné dans une Mishnah dans Dmai Perekhe. Halokeach mina paltar, celui qui achète du pain chez un boulanger grossiste, maaser min kol dfus vetfus, il devra prélever le maaser sur chaque pain dont la forme est différente. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Nous voyons donc bien ici que Rabbi Meir est quand même strict concernant l'interdiction de consommer des produits achetés chez l'ignorant. En plus, nous avons une contradiction entre les deux enseignements de Rabbi Meir. Comment expliquer cette différence entre le boulanger grossiste et le boulanger détaillant? Et là, maïtlach le mémar, forcément, qu'est-ce que tu voudras dire pour répondre cette contradiction? Paltar mitret la tagavrazavin. Nous savons que le boulanger grossiste achète son pain chez 2-3 personnes. Il se peut donc que l'une d'elles a déjà prélevé le maaser sur sa production et la deuxième n'a pas prélevé le maaser sur sa production. Et c'est pour cela donc que sur chaque sorte de pain, il faudra prélever le maaser séparément. Alors que Nartom, Nami Michat Gavra Ouzavin, tandis que le boulanger détaillant achète des fois aussi son pain chez un seul fournisseur. Et c'est à cause de cette possibilité que les Chachamim ont permis à celui qui achetait du pain chez un boulanger détaillant de prélever le maaser d'un pain sur l'autre, même s'ils sont de formes différentes. Autrement dit, du cas du boulanger grossiste, nous voyons que les Chachamim sont toujours aussi stricts concernant l'interdiction de consommer les produits achetés chez l'ignorant. Cependant, dans le cas du boulanger détaillant, les Chachamim se sont appuyés sur la possibilité qu'il s'est approvisionné chez une seule personne. Et c'est pour cela qu'ils ont été moins stricts et ils ont permis de prélever d'un pain sur l'autre, même s'ils sont de formes différentes. Rava Amar, Rava dit, en se rapportant sur le jugement d'Abaye, sur la réponse de Shmuel, Shmuel Shapir Kameshanele. Shmuel a donné une bonne réponse à la question de Rabbi Lazar, en comparant l'interdiction de consommer la Tumat Maaser et les lois du divorce. Parce que finalement, Shem Mita Baolam, dans les deux cas, ces interdictions sont sanctionnées par la peine de mort, même si leur gravité n'est pas la même. Par conséquent donc, selon Rava, notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Meir, selon lequel les Chachamim ont renforcé leur décret pour qu'il soit équivalent aux lois de la Torah. Voir le Rabbi Kiva Eger. Nouvelle Mishnah. Elu dvarim she'en lahem ona'a. Voici les choses pour la vente desquelles les lois de la fraude ne seront pas appliquées. Havadim, pour la vente d'esclaves, ve'ashtarot, ou pour la vente de documents comme les reconnaissances de dette, ve'akarkaot, et pour la vente de terrain, ve'ekdeshot, ou bien lorsque le responsable du Ekdesh vend les objets du Ekdesh. Dans ces cas, les lois de la fraude ne seront pas appliquées. En lahem tashlume kefel, si un voleur vole l'une de ces quatre choses, il ne sera pas condamné à l'amende du double paiement. Velo tashlume arba vachamisha, il ne sera pas non plus condamné à l'amende du paiement quadruple ou quintuple, qui est appliquée en général lorsque le voleur d'un bœuf ou d'un agneau l'a abattu ou l'a vendu. C'est-à-dire donc, si une personne a volé un bœuf ou un agneau appartenant au Ekdesh, et l'a abattu et l'a vendu, il ne sera pas condamné à l'amende du paiement quadruple ou quintuple. Shomer Chinam et Nonishba, la personne ayant été dépositaire en tant que gardien gratuit d'une des quatre choses énumérées par la Mishnah, il ne devra pas prêter un serment qui n'était pas négligent dans sa surveillance si l'objet en question s'est perdu ou a été détruit. Venose Sachar et Nomeshalem. Et le dépositaire, en tant que gardien payé d'une des quatre choses énumérées par la Mishnah, ne devra pas payer si l'objet en question a été volé ou s'est perdu. Rabbi Shimon Omer, nous tournons la page à Daf Nun Vav Amud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Nun Vav Amud Bet. Kodashim Sheu Chayav Bachariutan. Lorsqu'une personne vend un animal appartenant au Ekdesh pour lequel il s'était engagé à le remplacer s'il venait à disparaître. C'est-à-dire dans le cas d'une personne qui s'était engagée à offrir par exemple un korbanola, puis il a désigné un animal pour cette offrande, cette personne a l'engagement de le remplacer si cet animal vient à le mourir. Maintenant, si cet animal est devenu infirme et son propriétaire l'a vendu pour le remplacer, yesh lahen ona'a, les lois de la fraude seront appliquées ici. Et cela parce que cette personne est considérée comme étant aussi le propriétaire de cet animal, bien qu'il appartienne aussi au Ekdesh. Vesheno chayav bachariutan, mais lorsqu'une personne vend un animal de Ekdesh pour lequel il n'a pas l'engagement de le remplacer s'il vient à disparaître, c'est-à-dire dans le cas où il a désigné un animal pour l'offrande d'un korbanola sans engagement, puis celui-ci est devenu infirme et le propriétaire l'a vendu pour le remplacer, en lahem ona'a, les lois de la fraude ne seront pas appliquées. Et cela, puisque le propriétaire n'a pas d'engagement de le remplacer s'il vient à disparaître, cet animal est considéré entièrement comme la propriété du Ekdesh, pour lequel les lois de la fraude ne sont pas appliquées, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Afa Mocher Sefer Torah Behema Omargalit, même la personne qui vend à Sefer Torah un animal ou une pierre précieuse, en lahem ona'a, les lois de la fraude ne seront pas appliquées. Amroulo, les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, lo amrou elai telou, les Chachamim n'ont mentionné que les quatre choses mentionnées plus haut, qui sont les esclaves, les terrains, les reconnaissances de dette et les objets appartenant au Hekdesh, pour lesquels les lois de la fraude ne sont pas appliquées. Alors la Gemara demande, d'où sait-on ces choses-là, que les lois de la fraude ne sont pas appliquées pour la vente de terrains, d'esclaves, de reconnaissances de dette et d'objets appartenant au Hekdesh? La Gemara répond, de Tanou Rabbanan, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, qui interprète le pasouk dans Vaïkra Café concernant les transactions. Le pasouk dit, Vichitim Keru Mimkar La Mitecha, lorsque vous vendrez un objet à ton prochain, Okanomiyad Amitecha, ou bien lorsque tu achèteras des mains de ton prochain, ne trompez pas votre frère. Le terme de miyad, des mains, est en plus. De là nous apprenons, Davar Hanikne Miyad Liyad. Ce pasouk ne parle uniquement d'objets qui passent d'une main à l'autre. Ce n'est que pour la transaction donc d'objets mobiles que les lois de la fraude sont appliquées. Yatsu Karkaot Chena Metaltelim. Seront exclus les terrains ou la vente de terrains qui ne sont pas mobiles. Yatsu Avadim Shukshu le Karkaot. Seront exclus les esclaves qui sont comparés aux terrains. En effet, le pasouk dans Vaikra Café concernant les esclaves dit Vitnachaltem Otam Livnechem Acharechem La Reshet Achuza. Et vous les transmettrez en héritage à vos enfants après vous, pour qu'ils les héritent en tant que patrimoine. Les esclaves sont donc comparés au patrimoine, donc au terrain. De la même manière donc que les terrains sont exclus des lois de la fraude, la vente d'esclaves sera aussi exclue des lois de la fraude. Yatsu Shtarot, nous exclurons aussi la vente de reconnaissance de dette, dirtiv, parce que le pasouk dit, Vichitim Kerum Imkar, lorsque vous vendrez un objet. Nous parlons ici chez Goufo Machur d'un objet dont le corps est vendu, Vegufo Kanoui, et dont le corps est acquis. Yatsu Shtarot, nous exclurons les reconnaissances de dette chez En Gufan Machur, Ven Gufan Kanoui, dont le corps n'est pas vendu et dont le corps n'est pas acquis. Venan Ondim et la Leraya Shebahem, en effet, les documents qui sont les reconnaissances de dette ne sont destinés qu'à apporter la preuve nécessaire pour le recouvrement de la dette. En d'autres termes, ce n'est pas le support qui est vendu, mais plutôt la preuve qui sert au recouvrement de la dette. Il s'agit donc d'une vente abstraite pour laquelle les lois de la fraude ne seront pas appliquées. Mikan Amrou, de là, les Chachamim ont dit la loi suivante, Hamocher Shtarotav Lebassam, celui qui vend ses documents à un parfumeur pour envelopper ses ingrédients dans le parchemin, il s'agit donc ici d'une vente du papier ou du support, Yesh Laemona, pour cette transaction, les lois de la fraude seront appliquées. La Gemara demande Pshita, c'est évident, puisqu'il s'agit effectivement d'une vente réelle et non pas d'une vente abstraite. La Gemara répond, Léa Fouke, Miderav Kahana. Cette breita nous a précisé cela pour contrer l'opinion de Rav Kahana. D'Amar qui a dit, En ona le putot, les lois de la fraude ne seront pas appliquées pour une transaction évaluée par des putot. Selon lui, le montant de la transaction pour que les lois de la fraude seront appliquées sera d'un issar, comme nous l'avons dit plus haut. Kamash Malan, c'est pour cela que la Braïta nous enseigne que Yeshona le Proutot, les lois de la fraude seront appliquées pour les transactions évaluées par des Proutot. Finalement donc, pour une transaction d'une valeur de 6 Proutot, les lois de la fraude seront appliquées. La Braïta continue, Hekdeshot, nous savons que les lois de la fraude ne s'appliquent pas pour les objets du Hekdesh, parce que Amakra le Pasuk dit, toujours dans Vaikra Café, Achiv, ne trompez pas votre frère. Alors le Pasuk précise, Achiv, son frère, Velo Hekdesh, et non pas le Hekdesh, qui n'est pas considéré comme le frère de la personne. De là, nous apprenons donc que les lois de la fraude ne s'appliquent pas pour la vente d'objets appartenant au Hekdesh. Matkifla, Rabba Bar Mamal. Rabba Bar Mamal a objecté sur l'enseignement de la Braïta. Kol Echad Irtiv Yado, partout où le Pasuk emploie le terme de Yado Sama, Yado Mamash, ce terme de Sama est pris à la lettre. Et la Meata, si c'est ainsi, Dirtiv, le pasouk qui dit dans Bamidbar Kafalev, Vaikach et Kolarzo Miyado, et Sichon a pris toute sa terre des mains du roi de Moab. Hachinami de Kol Arab Yade Avanakitla. Est-ce que aussi nous dirons que le roi de Moab tenait toutes ses terres dans sa main, pour dire que le roi Sichon a pris toutes ses terres de sa main? Et là, forcément, tu devras dire Mirshuto. Le pasouk veut dire que Sichon a pris tous ses terrains de la possession du roi de Moab. Hachanami, ici aussi, nous devrons interpréter ce pasouk qui dit Kano miyad amitecha, Mirshuto, lorsque tu achèteras quelque chose de la propriété de ton prochain. Si c'est ainsi, on ne peut pas exclure des lois de la fraude la vente des terrains et des esclaves. Alors la Gemara rétorque, בכל אחד הכתיב ידו, לאו ידו ממש, et partout où la Torah emploie le terme de ידו, sa main, ce terme n'est pas pris à la lettre. Vatania, voici qu'il a été enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Shemot Kavbet concernant le voleur qui est condamné à l'amende du double paiement. Im himatze timatze beyado. Si l'objet volé se trouve dans sa main, la braïta dit, en leila yado. Nous lui disons cela, que le voleur est condamné à l'amende du double paiement que si l'objet volé se trouve dans sa main. Gago chatzero vekarpe for minayin. Si l'objet volé se trouve sur son toit, dans sa cour ou dans son arrière-cour, d'où sait-on que le voleur sera aussi condamné à l'amende du double paiement? Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit, im himatze timatze mikol makom. Si trouvé, il se trouvera. C'est-à-dire, cette répétition est superflue pour nous enseigner que le voleur sera condamné à l'amende du double paiement, non seulement si l'objet volé se trouve entre ses mains, mais même n'importe où dans son domaine. Finalement donc, tama de katav rachamana im himatze timatze, ce n'est que parce que la Torah précise, si trouvé, il se trouvera. Donc, en d'autres termes, ce n'est qu'à cause de cette répétition que nous apprenons que le voleur sera condamné à l'amende du double paiement, même si l'objet volé ne se trouve pas entre ses mains. Halavachi, mais si ce n'était pas ainsi, c'est-à-dire si la Torah n'avait pas fait cette répétition, Havamina, j'aurais cru, kol echad katav yado, partout où la Torah emploie le terme de yado sa main, yado mamashava. La Torah parle effectivement de sa main, nous aurions donc dit que le voleur ne sera condamné à l'amende du double paiement uniquement si l'objet volé se trouve entre ses mains. Vetutania, et en plus, nous avons une autre braïta qui interprète les psukim concernant les lois du divorce. Le pasuk dit dans Dvarim Kavdalet concernant la personne qui veut divorcer sa femme, il écrira un acte de divorce, Venatan Beada, et le remettra dans sa main. Alors la braïta dit, Enyela Yada, nous avons appris de là uniquement que la femme sera divorcée si l'acte de divorce est remis entre ses mains. Gaga, Khatsera, Vekarpefar, Minayin, d'où c'est donc qu'elle sera divorcée si l'acte de divorce est déposé sur son toit, dans sa cour ou dans son arrière-cour. La Braïta répond, Talmud Lomar, c'est pour cela que le Pasuk dit, Venatan, et il remettra, Mikomakom, n'importe où. Autrement dit, si le Pasuk voulait nous enseigner que la femme ne sera divorcée que si l'acte de divorce est remis entre ses mains, il aurait dû s'exprimer en disant, Ubiada, Itnenu, et dans sa main, il le remettra. Maintenant que le pasouk dit Venatan en premier, nous pouvons déduire de là que si l'acte de divorce est déposé n'importe où dans le domaine de la femme, elle sera divorcée. Finalement donc, nous pouvons déduire de cette braïta que Tama de Katavrachamana Venatan, ce n'est que parce que la Torah s'est exprimée en disant et il remettra entre ses mains, en mettant le Venatan en premier, que nous déduisons que la femme sera divorcée lorsque l'acte de divorce est déposé n'importe où dans son domaine. Halavachi, mais si ce n'était pas ainsi, c'est-à-dire si la Torah s'était exprimée en disant et dans sa main, il le remettra. Havamina, j'aurais cru, kol echad katav yado, partout où la Torah emploie le terme de yado, sa main, yado mamash, ce terme est pris à la lettre. Et là, forcément, tu devras dire, kol yado, partout où la Torah emploie le terme de yado, sa main, yado mamash, où ce terme est pris à la lettre. Par conséquent donc, quand la Torah dit, kano miyala mitecha, lorsque tu achètes des mains de ton prochain, nous pouvons déduire que la Torah parle uniquement de transactions d'objets qui passent d'une main à l'autre. Veshaniatam, et là-bas, concernant le pasouk dans Bamidbar Kafalef, qui dit Vaikar et Kolarto Miyado, et Sichon a pris toute sa terre de ses mains, c'est différent de l'Ekalme Marachi. Là-bas, tu ne peux pas dire ainsi, c'est-à-dire tu ne peux pas traduire le terme de Biado à la lettre. Et là, Birchuto, là-bas, tu devras dire de sa propriété. Ce pasouk sera donc traduit, parce qu'on n'a pas le choix, et Sichon a pris toute sa terre de la possession du roi de Moab. Bae Rabizera a posé la question suivante. Srirut, est-ce que pour l'allocation Yeshlohonaa, les lois de la fraude sont appliquées au Enlohonaa, ou est-ce que nous disons que les lois de la fraude ne sont pas appliquées? Alors la Gemara précise, même Karama Ahmana, la Torah parle de vente, Avalo Srirut, mais non pas de location. Odilma Loshana, ou bien est-ce que nous disons qu'il n'y a pas de différence entre la vente et la location? Amar le Abaye, Abaye lui a répondu, Miktiv Memkar Leolam, est-ce que la Torah parle de vente définitive pour exclure la location? Même car c'est un actif. La Torah parle de vente sans précision. Elle pourrait donc parler même d'une vente pour un jour. Behainami, et cette location aussi, Beyomé, quand il s'agit par exemple d'une location d'un jour, Mechirahi, est considérée comme une vente temporaire. Par conséquent donc, pour la location, les lois de la fraude seront appliquées. Bae Rava. Rava s'est posé la question suivante. Chitin Vezaran Vekarka. Si une personne avait des grains de blé et les a semés dans la terre, puis il les a vendus, comme l'explique le Bach sur le tour dans Roshen Mishpat Siman Resh Kavzaïn, de manière à ce que l'acheteur tire profit de la récolte. Or, Mahou Kelela Alacha, Yesh Lahem Onaa, est-ce que les lois de la fraude seront appliquées, ou En Lahem Onaa, ou bien est-ce que les lois de la fraude ne seront pas appliquées? Alors, la Gemara précise, Keman de Shadian Bechada Damian, est-ce que nous considérons ces grains de blé semés dans la terre comme s'ils étaient entreposés dans une cruche? En d'autres termes, ils sont considérés comme des objets mobiles, Yesh Lahem Onaa. Par conséquent, les lois de la fraude seront appliquées pour cette transaction, Odilma, ou bien ce que nous dirons, Batlinu Algav Ara, ces grains de blé, une fois qu'ils ont été semés dans la terre, sont annulés par rapport à la terre. En d'autres termes, ils sont considérés comme les terrains. Par conséquent, les lois de la fraude ne seront pas appliquées. Alors l'Agmar demande, Hechidami, de quel cas s'agit-il? Il est ma de amar ihu, s'il s'agit d'un cas où le vendeur aurait dit à l'acheteur, Shadai Bashita, j'ai semé 6 mesures de blé dans ce terrain, Veatu Saade Veamre, puis des témoins sont venus testifier de l'Oshadaba et la Hamisha, que le vendeur n'avait semé que 5 mesures. Alors pour cela, il n'y a pas de doute. Veha amar Rava, voici que Rava a dit, Kol davar shebemida veshebemishkal veshebeminyan, pour toute erreur sur la mesure, le poids ou le compte, même si l'erreur est de moins que le montant fixé pour la fraude, c'est-à-dire moins qu'un sixième, l'acheteur peut annuler la transaction. Et cela même s'il s'agit d'une transaction sur des terrains. Parce que ce cas n'est pas un cas de fraude générale, mais nous considérons ce cas comme une transaction erronée. En effet, l'acheteur peut dire, je pensais acheter une telle quantité et non pas une autre. Et c'est pour cela donc qu'il pourrait annuler la transaction, même s'il s'agit d'une transaction sur des terrains. Alors l'Agma répond, « Ela, de'amar ihu, shadaiba, kedeiba ela. » Plutôt nous devons dire que le vendeur a dit à l'acheteur, « J'ai semé dans ce terrain la quantité nécessaire. »« Ve'iglae milta de lo shadaba, kedeiba ela. » Il s'est avéré qu'il n'a pas semé la quantité nécessaire. C'est-à-dire, concernant la quantité de blé semé, comme l'explique le Tosfot, il n'y a pas eu d'erreur, le vendeur avoue qu'il a semé, par exemple, 5 mesures de blé, seulement il pensait que cette quantité était suffisante. Il ne s'agit donc pas d'une erreur sur la mesure pour laquelle l'acheteur pourrait annuler la transaction, mais il s'agit d'une erreur d'appréciation de la part du vendeur. Nous considérons cela donc comme une fraude. Alors la question se pose, Yesh Laimona, est-ce que pour cette transaction, les lois de la fraude s'appliqueront, ou En Laimona, ou bien est-ce que les lois de la fraude ne s'appliqueront pas? Alors l'Agmara précise à nouveau, Keman Deshade Bechada Damian, est-ce que ces grains de blé se considéraient comme entreposés dans une cruche? En d'autres termes, ils sont considérés comme des objets mobiles, Yesh Laimona, et les lois de la fraude s'appliqueront, Odilma, ou bien est-ce que nous dirons, puisque ces grains de blé ont été semés dans la terre, Batlinu Agavara, ils sont considérés comme étant annulés à la terre. En d'autres termes, ce blé est considéré comme la terre pour laquelle les lois de la fraude ne s'appliquent pas. Rava s'est posé une deuxième question concernant les grains de blé semés dans la terre. Dans le cas où une personne dit à une autre, je t'ai donné 6 mesures de blé à semer et tu m'en as semé que 5. J'exige donc que tu me sèmes la 6e mesure. L'accusé répond, je t'ai semé 5 mesures et demie et je ne te dois donc qu'une demi-mesure que je sèmerai. Il y a donc ici un aveu partiel pour lequel la Torah a imposé un serment. Cependant, dans notre cas, le litige concerne des grains de blé semés dans la terre. Alors la question se pose, Nishbain Alehem, est-ce que l'accusé devra prêter un serment, ou bien est-ce que l'accusé n'aura pas l'obligation de prêter serment? Alors l'Agmara précise, Keman de Shadian Bechada Damian, est-ce que les grains de blé semés dans la terre sont considérés comme entreposés dans une cruche? Ils sont considérés donc comme des objets mobiles. Par conséquent, Venishbaim Alehem, l'accusé, devra prêter serment. Odima, ou bien ce que nous dirons, puisque cette personne exige des grains de blé semés dans la terre, Batlino Agavara, nous considérons qu'ils sont annulés à la terre. En d'autres termes, ce blé est considéré comme la terre, Venishbaim Alehem, sur laquelle on ne prête pas de serment. Rava s'est posé une troisième question. Nous savons que tous les céréales semées après Pessah sont interdits à la consommation jusqu'au 16 Nissan. C'était le jour où, au temps du Beit HaMikdash, l'offrande de l'Omer était offerte et c'était cette offrande qui permettait la nouvelle récolte. Alors la question se pose ici concernant ces grains de blé qui sont semés dans la terre. Omer Matiran, est-ce que l'offrande de l'Omer les permet à la consommation, ou en Omer Matiran, ou bien est-ce que l'offrande de l'Omer ne les permet pas à la consommation? Alors l'Agmara demande, Hechidami, de quel cas s'agit-il? Ide Ashrouch, si ces grains de blé ont pris racine, Tanina, la Mishnah enseigne la loi à leur sujet. Id lo hashrush, si ces grains de blé n'ont pas encore pris racine, tanina, la Mishnah aussi enseigne la loi à ce sujet. Detnan, parce qu'il est enseigné dans une Mishnah, dans Menachot, daf Aïn. Im hishrishu kodem la Omer, si des céréales ont pris racine avant l'offrande de l'Omer, Omer matiran, l'offrande de l'Omer, les permettra à la consommation, même s'ils sont récoltés beaucoup plus tard. Ve'im lav, mais si ces grains de blé ou de céréales n'ont pas pris racine avant l'offrande du Omer, Asurin, Adchiavo, Omer Abba, ils seront interdits jusqu'à la prochaine offrande de l'Omer, c'est-à-dire jusqu'au 16 Nissan prochain. Donc finalement, quelle est la question que Rava s'est posée? Alagma répond, Lotricha. Rava n'a eu besoin de se poser cette question que pour le cas suivant. Il s'agit de céréales qui ont été semées après l'offrande de l'Omer d'une certaine année, Dechatzdinu, puis ils ont été récoltés, Vezar inu kodem la Omer, et ils ont été semés avant l'offrande de l'Omer de l'année suivante. Ve'atale Omer, et le jour de l'offrande de Omer est venu, Ve'chalif ilavayu, est passé alors que ces grains de blé étaient semés dans la terre, Ve'lo hashrush kodem la Omer, et ces grains de blé n'avaient pas encore pris racine avant l'offrande du Omer. Il est évident que concernant la récolte qui sera produite par ces grains de blé, celle-ci sera interdite jusqu'au 16 Nissan suivant, le jour de l'offrande de l'Omer. Cependant, nous passons à Daf Nun Zayin Amud Alef. La question se pose, Mahu le Minkat ou Michal Minayu.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.